Yeah. À la une, les nouvelles sur le front social, la frappe qui a décliné l'invitation de la présidence hier, la pollution après l'incendie chez Agritech, les chiffres de la délinquance et enfin une exposition de la communauté LGBT. Le journal de 7h, c'est avec Lucie Rabréau. Bonjour Lucie.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
Des nouvelles sur le front social avec la frappe qui a refusé l'invitation de la présidence hier.
Voilà, c'était la question hier après-midi. Ira ou ira pas? Et réponse, ira pas. Moïta Ibrahimson avait invité la frappe pour leur faire connaître l'option choisie sur la revalorisation des salaires des fonctionnaires de catégorie D et aussi tenter d'avancer vers une sortie du préavis de grève de la Fédération qui est toujours suspendu depuis le 13 janvier dernier. Caroline Perdry.
Ils attendaient une nouvelle proposition du gouvernement sur la grille indiciaire des fonctionnaires de catégorie D, le point d'achoppement qui empêche jusqu'ici de sortir du préavis de grève qui n'est que suspendu, une décision qui aurait dû être validée lors du Conseil des ministres du 29 janvier à Nuku'iwa, mais tardait à arriver malgré les relances de la centrale syndicale qui accusait le pays de rétro-pédaler. D'après ce que l'on sait, le gouvernement a une proposition qui coûterait 252 millions de francs supplémentaires par an, tandis que celle de la frappe est chiffrée à plus du double. La rencontre a finalement été proposée par Moïta Ibrahimson pour 17h hier, mais en début d'après-midi, la frappe déclarait vouloir d'abord connaître l'ordre du jour précis et les propositions envisagées par le président. « Il nous paraît inutile de perdre davantage de temps », écrivait Jean-Paul Urima. Les syndicalistes ne sont donc pas venus.
Merci Caroline. Et aucune indication n'a encore été donnée sur une nouvelle date de rencontre.
Et ces premiers éléments de l'enquête sur l'incendie d'Agritech.
Depuis quelques jours, les habitants du quartier racontaient dans la presse l'odeur encore présente, les anguilles mortes dans la rivière, leurs inquiétudes d'avoir peut-être respiré des fumées toxiques. Et le pays a révélé hier les premiers résultats de l'enquête de la DIREN et de la biosécurité. Ils indiquent que la zone de stockage des pesticides a bel et bien été touchée par l'incendie. Il est donc probable que les fumées et eaux d'extraction ont été contaminées, est-il écrit dans le communiqué. Les anguilles mortes s'expliquent par une forte concentration de polluants azotés issus des engrais stockés chez Agritech. Les autorités déconseillent de manger des produits agricoles issus des parcelles environnantes ou de se baigner à Faa, sur Vaitupa et à l'hôtel Hilton notamment. Et en ce qui concerne le décès d'une résidente du quartier, la procureure de la République Solène Belaouar indique que l'autopsie pratiquée ne permet pas de conclure qu'il y a un lien avec l'incendie. Mais l'hypothèse n'est pas exclue, on attend des analyses complémentaire. Et une autre enquête plus ancienne est toujours en cours sur l'entreprise. Elle avait été ouverte en 2023 pour tromperie aggravée et mise en danger de la vie d'autrui. Un contrôle avait eu lieu l'année dernière dans l'entrepôt. Agritech avait été sommé de se mettre en conformité et une procédure de retrait de son agrément était en cours. Le gouvernement souhaite désormais présenter un projet de loi relatif aux pesticides. Un texte qui permettra de donner des réponses plus rapides et efficaces en cas de violation des normes de stockage. Et quant au feu, l'hypothèse d'un départ volontaire a été exclu.
Il est 7h03, le maire de Punaouia ne fera pas l'objet de poursuites pénales.
Oui, comme révélé par Tahiti Info en 2023, Simplicio Lissan était soupçonné de prise illégale d'intérêts et de favoritisme. Un marché public de conteneurs aménagés avait été attribué à une société dirigée par le fils de la première adjointe du maire, Cathy Puchon. Hier, la procureure de la République a annoncé avoir classé l'affaire. Des irrégularités ont été constatées, mais elles ne justifient pas des poursuites pénales, indique la magistrate.
Justice encore avec ces chiffres, les violences intrafamiliales sont deux fois plus nombreuses en Polynésie qu'en France.
Il s'agit d'une des données les plus marquantes des chiffres de la délinquance de 2024. Ils ont été dévoilés hier par la procureure de la République, Solène Belaouar. Ces chiffres nous apprennent donc que la Polynésie enregistre 7 victimes de violences intrafamiliales pour 1000 habitants, alors que la France en compte à peine 3 pour 1000. Ce sont ainsi plus de 1900 personnes qui ont été victimes de violences dans leur famille. Et globalement, en Val-de-Marne-de-l'Age, ces chiffres de la délinquance sont en augmentation.
Oui, on constate par exemple que les coups et blessures volontaires ont augmenté de 4,7% entre 2023 et 2024, statistique qui monte à 6,9% en ce qui concerne les violences sexuelles. Sur ces deux points, la proportion est plus importante au Fénois qu'en métropole, des chiffres qui sont probablement plus hauts en réalité puisque ces statistiques, Lucie, elles ne se basent que sur les faits qui sont connus de la justice.
Et les vols aussi ont augmenté.
Oui, 2,7% en ce qui concerne les vols contre des personnes. Les vols violents, eux, se stabilisent, mais surtout ce sont les cambriolages qui ont explosé, plus 15% en un an, alors qu'ils avaient plutôt tendance à baisser les années précédentes. Mais avec 1,5 infraction constatée pour 1000 habitants, les Polynésiens sont tout de même moins cambriolés qu'en métropole ou que dans les autres collectivités d'outre-mer. Un type de vol est toutefois en grande baisse, il s'agit des vols de véhicules, 411 en 2024, soit une chute de 20%. Enfin, on constate une forte augmentation des escroqueries, 36,2% en plus avec 625 victimes recensées. Sur ce point, Lucie, c'est comme partout autour du monde, ce sont les escroqueries sur Internet qui explosent.
Et il y a aussi les chiffres concernant les stupéfiants. Alors quels sont les constats ?
Avec une très forte augmentation des mises en cause pour trafic, 556 en 2024, c'est 43% de plus qu'en 2023, alors que l'évolution annuelle moyenne depuis 2016 est plutôt autour des 7%. Rapporté à la métropole, la Polynésie compte deux fois plus de personnes mises en cause pour trafic. En ce qui concerne l'usage de stupéfiants, le nombre de délits constatés en 2024 augmente de 10%. On est sur des statistiques comparables à la métropole et même inférieures aux autres collectivités d'outre-mer, dont la moyenne est tirée à la hausse par la Nouvelle-Calédonie.
Et toujours au volet stupéfiants, on a saisi moins d'ice l'an passé.
13 kilos ont été interceptés par les différents services, dont 8,5 par la douane en 2024. On se souvient notamment de cette première saisie de Blue Ice en novembre. Alors c'est beaucoup moins qu'en 2023, 24 kilos avaient été saisis. Mais il faut préciser que 2024 a été une année particulièrement réussie pour la coopération avec les États-Unis, où 15 kilos d'ice ont été saisis de la drogue qui était destinée aux Fénois. Alors ces chiffres, ils sont à prendre avec des pincettes, puisque les forces de l'ordre constatent aussi que le prix de l'ice est en baisse sur le territoire. L'offre est donc toujours aussi importante et ça inquiète bien sûr les autorités.
Voilà, merci Valdemar. Voilà ce qu'on peut retenir des chiffres de la délinquance de l'année 2024. La procureure a profité de cette rencontre avec la presse hier pour rappeler que le fonctionnement du parquet était désormais optimal après une fin d'année 2024 marquée par de nombreux arrêts maladie sur fond de tensions internes.
Culture maintenant avec cette exposition organisée à la Brasserie Oa.
Alors que le documentaire Fier est actuellement présenté au FIFO en compétition, une exposition des photos prises lors du tournage est organisée donc à la Brasserie Oa. Le documentaire de Reynald Merienne aborde la question du genre en Polynésie française à travers les témoignages et portraits de plusieurs personnes trans. L'artiste, photographe et militante Cartouche était la directrice artistique des interviews sur Fier et ses photos sont comme un fil rouge dans le documentaire servant de lien entre les témoignages.
On pourrait fantasmer cette idée que la transidentité en Polynésie, elle est totalement acceptée. Dans la réalité, c'est pas toujours le cas. Donc il y a beaucoup de personnes qui témoignent d'une réalité très dure qu'ils ont pu vivre, notamment des violences intrafamiliales ou scolaires ou de la discrimination au travail. Ils parlent aussi de l'impact de la religion, parce que si on étudie un petit peu anthropologiquement la Polynésie, on se rend compte que le troisième genre a toujours existé culturellement et qu'en fait, ce sont les missionnaires qui sont arrivés et qui ont fait que cette discrimination s'est mise en place de manière sociale et très pesante.
Et les personnes interrogées dans le documentaire ont d'abord été invitées en studio où Cartouche a pris des photos et certaines d'entre elles ont accepté ensuite d'être suivies chez elles avec leurs proches. Devant la caméra sur fond noir, elles se confient sur leur vie, c'est parfois drôle, parfois terrible. Les photos illustrent aussi ces témoignages et l'exposition met en avant cette communauté.
C'est vraiment cette manière vraiment de normaliser leur présence dans l'espace public parce que c'est des personnes qui font partie de notre société et il faut arrêter de les marginaliser et d'en parler comme un groupe de personnes à côté. Je veux dire, les personnes trans, ce sont nos amis, ce sont nos fils, nos filles, des fois nos surveillants d'école, notre banquier, banquière, peu importe. Et il faut normaliser leur présence dans l'espace public. Et je crois que, alors un documentaire, c'est merveilleux, le documentaire est fantastique, je l'adore. Mais c'est vrai qu'il faut quand même se poser 52 minutes et prendre le temps de le regarder. Des photos dans l'espace public, on est obligé d'y être confronté. Et il y a cette notion vraiment où si cette exposition, elle bouge, elle va être obligée de toucher un maximum de personnes.
Voilà, c'est à la Brasserie Hoa jusqu'au 3 mars et à noter qu'un catalogue sera mis à disposition du public pour permettre aux visiteurs d'acheter des tirages en édition limitée. Une partie des recettes de la vente sera reversée à l'association Cousins Cousines et aux modèles.
Et on termine ce journal avec du sport.
Du surf avec des nouvelles de Vahine Fiero. Elle a été éliminée hier de la première étape du Championship Tour à Pipeline. Elle s'est inclinée en 8e face à la costaricienne Brisa Hennessy. Prochaine étape, ce sera à Abu Dhabi sur l'île de Udeh Riyat à partir du 14 février. Une étape particulière car c'est une vague artificielle créée avec la technologie de Kelly Slater. Voilà, c'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 7h30 pour la revue de presse.
Merci beaucoup Lucie. Maintenant, on passe à la météo sur Radio.